Europe 1 Culture Média.
Ces cris que vous venez d'entendre, c'est quand on marque un but ou quand on gagne une course dans un stade en folie avec les commentateurs télé ou radio qui n'ont plus de voix, certes. Et quand tout ça s'arrête, c'est l'objet d'un documentaire passionnant d'Olivier Dacour sur Canal+, Le Crépuscule des Champions. Il sera notre invité dans 30 minutes. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous avez vu comment ça fait quand ça s'arrête? Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, toutes les formes de culture, tous les médias, même les plus petits, comme Télé Vendée, une chaîne de 26 salariés pour 270 000 téléspectateurs. Comment vivent-ils? Est-ce rentable? Qui est son public? Réponse avec son directeur qui est également animateur d'émission, Hervé Leroc. Vous retrouvez évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage, et dans quelques instants, le journal des médias avec Louise Bernard. Notre invité culture, c'est une chanteuse, la grande Sophie, pour son nouvel album La Vie Moderne, enregistré chez elle dans son appart pendant le confinement. C'est les voisins qui ont dû être contents. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Évidemment, vous pouvez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Les salariés de la Voix du Nord s'opposent au plan social qui est prévu. Delphine Ernotte et Sybille Veil réagissent aux propos de Cyril Hanouna contre l'audiovisuel public. Les nouveaux enfoirés, quelle personnalité intègre la troupe? Des surprises dans le classement des auteurs qui ont le plus vendu de livres en 2022. Et puis un canular sur la BBC, ce sera en fin de journal.
Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, comme on dit.
Ils ont regardé le service public, hein. France 3 est en tête avec le téléfilm policier En attendant un miracle. C'était une rediffusion, 3 200 000 téléspectateurs, 15,6% de part d'audience. Deuxième, c'est France 2 au coude à coude, hein. 3 130 000 téléspectateurs pour le documentaire, la première partie sur l'affaire d'Outreau. C'est un très bon score, hein, pour un documentaire en prime time, 15,5% de part d'audience.
Et on recevra, c'est en deux parties, en deux soirées, on recevra ces autrices. Demain, on a justement fait exprès d'être entre les deux diffusions.
Comme ça, vous avez l'audience.
Voilà.
Troisième, c'est M6 avec un petit score pour un prime de scène de ménage, hein, 2 650 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. Ça permet quand même à M6 d'être devant au coude à coude. Hein. Soit 2017 sur TF1, la série américaine attire tout de même 2 730 000 téléspectateurs, c'est tout proche, hein, de scène de ménage. 13,6%. Ah, mais c'est TF1 donc, qui est troisième, pardon. Tout va bien, non, je suis toujours aussi douée en maths. 13,6% de part d'audience, pardon.
Europe 1, le journal des médias.
À la Voix du Nord, il s'agit de presse, des suppressions de postes inquiètent les salariés.
Oui, un plan social qui leur a été présenté lundi. Il propose la suppression de 105 postes, mais promet aussi 50 embauches, ce qui porte le nombre réel de postes menacés à 55. Les employés seniors sont en particulier visés. C'est justement l'un des points qui bloque auprès de la rédaction, tout comme la fusion de plusieurs éditions locales du journal, ce qui entraînerait, selon les syndicats, une purge de certaines antennes, notamment celle de Calais. Quelques exemples donc, hein, parmi plusieurs points qui ont conduit à une large majorité de la rédaction à voter une motion de défiance à l'égard du directeur de la rédaction, du rédacteur en chef et de l'actionnaire, le groupe Rossel.
Delphine Ernotte et Sybille Veil réagissent aux propos de Cyril Hanouna contre l'audiovisuel public.
Oui, la présidente de Radio France s'est exprimée hier dans un tweet laconique. Sybille Veil a partagé la vidéo où Cyril Hanouna appelle à la privatisation de Radio France et de France Télévisions après s'être insurgée contre les 4 milliards d'euros alloués à l'audiovisuel public par l'État. Elle accompagne le partage de cet extrait « Touche pas à mon poste » d'un commentaire « La société du défouloir ». Quant à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, elle a commenté elle aussi la violente charge de Cyril Hanouna en marge d'un colloque d'après Le Parisien. Elle s'est dite un peu surprise, citation, « Je connais bien Cyril, c'est un animateur professionnel, là je trouve qu'il a été trop loin, je ne comprends pas bien d'où ça sort ». Et elle a aussi rappelé au passage que l'animateur avait, je cite, « quand même passé 10 ans sur le service public ». Et il a encore aujourd'hui d'ailleurs un lien avec France Télévisions. Hein. Cyril Hanouna est l'un des actionnaires d'une boîte de production, Banijé, qui produit nombreux contenus pour le groupe public. Hier soir, l'animateur est donc revenu sur sa charge contre l'audiovisuel public et a nuancé son avis, en tout cas sur France Télévisions.
Mais France Télévisions, à la limite, je vous le dis, ils ne me dérangent pas. Voilà, ils font leur travail. Et puis, comme je l'ai dit hier, j'adore Delphine Ernotte. C'est-à-dire la patronne de France Télévisions. Elle a des très bons résultats, elle est sympathique, elle juge personne. Ce qui me dérange, et vous le savez, c'est Radio France encore plus.
Voilà, il a donc appelé à faire du tri, hein, parmi les 7 radios que compte le service public.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir 20
On a reconnu la chanson des Enfoirés, lancée par Coluche ici sur l'antenne d'Europe 1. Des concerts ont été enregistrés et donc, Louise, les nouvelles recrues dévoilées.
Oui, alors ce concert, il sera retransmis comme chaque année sur TF1. Les téléspectateurs pourront donc voir de nouvelles personnalités qui ont rejoint la troupe. Parmi elles, des sportifs, Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, le pilote de Formule 1 aussi, Esteban Ocon et Ocon.
Ouais.
Et le danseur étoile Germain Louvet, des chanteuses aussi, hein, Sophia Essaïdi, qu'on a plus vue comme comédienne dernièrement, mais qui est chanteuse à l'origine, elle avait fait la Star Academy. Mentissa aussi, talent de The Voice, qui vient d'être nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation. Vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu son tube, et bam. La diffusion prévue dans quelques semaines à l'approche du printemps sur TF1.
On quitte le monde de la télévision pour celui des librairies. Le classement des auteurs qui ont vendu le plus de livres en 2022 en France a été révélé par le Figaro.
Oui, pas de surprise tout en haut du classement GFK. C'est Guillaume Musso qui conserve son titre pour la 12e année consécutive. Près de 1 400 000 ouvrages vendus. Mais la suite du classement se retrouve en revanche bouleversée comparée aux années précédentes. À commencer par la 2e place occupée cette année par Joël Dicker, lui qui était pourtant absent du classement en 2021 et 5e en 2020. Lui qui est aussi passé en auto-édition, il n'a plus d'éditeur, c'est lui qui s'édite tout seul, auto-édition donc. Autre surprise, la 3e place revient à la jeune romancière de 32 ans, Mélissa Dacosta, avec plus de 800 000 ventes. Elle qui a sorti son premier livre en 2019, Tout le bleu du ciel, et puis son 4e donc en 2022. À noter qu'elle figurait quand même déjà, alors c'était pour la première fois dans le classement l'an dernier, et elle était 7e.
Elle sera prochainement invitée dans Culture Média.
Voilà pour le podium. Je vous cite quand même un autre fait marquant du reste de ce classement. Parmi ces 10 auteurs donc, qui ont le plus vendu de livres en 2022 en France, on trouve Annie Ernaux à la 7e place. Oui, c'est la première fois qu'un Nobel de littérature fait partie de ce classement des auteurs les plus achetés en France. Ça n'avait pas été le cas pour d'autres prix Nobel français, pour les autres prix Nobel français, Leclésio et Modiano. Bon, il faut dire que les anciens livres d'Annie Ernaux se sont arrachés en librairie dès l'annonce de sa récompense, ce qui a poussé les maisons d'édition à procéder à nombreuses réimpressions. Et puis, Annie Ernaux a aussi publié un livre cette même année, en 2022, un livre inédit, Le jeune homme, c'est un court récit autobiographique.
On part à l'étranger pour la fin de ce journal avec une histoire de canular. Ça s'est passé à la télévision britannique hier soir.
Et pourtant sur la très sérieuse BBC, c'était avant une rencontre de football. Pendant des interviews d'avant-match, les consultants ont été gênés par des bruits sur le plateau qu'on entendait à l'antenne. Des bruits qui semblaient venir d'un film pornographique. Personne ne comprenait d'où ça pouvait provenir. Difficile pour les présentateurs et commentateurs de se retenir de rire d'ailleurs. Finalement, un téléphone scotché sur un siège du plateau, sur le décor même, pardon, a été retrouvé. Une fois le match commencé, ils ont fouillé ce décor. La BBC a présenté ses excuses si des spectateurs ont pu être offensés. Puis elle a annoncé qu'une enquête était en cours.
Merci beaucoup Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, TV Vendée, une chaîne de 26 salariés seulement, regardée par 42% de la population vendéenne. Comment vivent-ils? Est-ce rentable? Réponse avec son directeur. Il est venu de Vendée pour parler au micro de Culture Média, Hervé Leroc. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Qui a dit que la télévision était un sport de riches? Oui, on peut monter une chaîne avec une vingtaine de salariés en CDI et en vivre, on va voir comment. Voici une chaîne de télévision regardée par 42% de sa population, TV Vendée, chaîne locale parmi la cinquantaine existante en France, chaîne répartie sur l'ensemble du territoire. Des médias de proximité qui mettent en valeur les richesses culturelles et économiques des régions et qui créent avec leur public un lien de proximité évidemment et de confiance. Mais quel est le modèle économique de ces chaînes? Comment font-elles pour concurrencer les acteurs nationaux? Le font-elles d'ailleurs? Comment vivent-elles? Toutes ces questions qu'on va poser à Hervé Leroc, le directeur général de TV Vendée. Bonjour.
Bonjour Philippe Vendée.
Merci d'être venu de Vendée. La TV Vendée, ça se fait de là-bas.
Oui, ça se fait de là-bas. Merci de m'avoir invité.
Voilà, je dis ça parce qu'il y a des éditorialistes parfois de Nice Matin ou de journaux régionaux qui écrivent leurs papiers depuis Paris. Là, vous êtes vendéen, vous êtes localier, vous avez pris le TGV, vous allez rentrer tout à l'heure.
Très vite.
Pour éviter les ennuis et les grèves de demain. Est-ce que vous pouvez nous présenter TV Vendée en bref et en quelques chiffres?
Alors, en quelques chiffres, TV Vendée, donc 26 salariés, une quinzaine d'intervenants extérieurs, un budget de l'ordre de 2 300 000 euros, enfin, ça dépend dépend des années, du chiffre d'affaires qu'on fait.
Mais nous ici, Louise Bernard donne les chiffres d'audience. Combien de personnes habitent en Vendée, peuvent vous regarder? Quel est le bassin de population? Et combien de personnes vous regardent d'après vos sondages?
Alors, d'après nos sondages, c'est le sondage Médiamétrie qu'on fait une fois par an. Là, rien que sur la TNT, que la TNT, pas les réseaux sociaux, les box, YouTube, etc. On a 270 000 téléspectateurs au global sur une population de 650 000 habitants.
En fait, donc, c'est énorme. On a fait le ratio, c'est 42% de la population vendéenne qui vous regarde. Elle vous regarde pas au même moment.
Non, bien
vous
sûr.
Ça, c'est 42%
les téléspectateurs globaux, mais plus régulièrement, on a 100 000 téléspectateurs chaque semaine.
Comment ça se passe? Il y a une grille du matin au soir. Qu'est-ce qu'on découvre? Il y a des émissions phares, il y a des moments où vous coupez le relais. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit sur TV Vendée? Moi, j'ai vu quelques émissions, mais je ne vais pas mentir, je n'ai pas vu la continuité, le continuum de la chaîne.
Mais c'est pas notre objectif. On est des médias de complément. Il faut assumer cette identité de médias de complément. On s'assied pas le soir en se disant tiens, je vais me faire un bon TV Vendée ce soir. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que dans la ligne éditoriale et pour arriver directement sur les contenus, on a une promesse, ce qu'on appelle une promesse à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des JT à la demi de chaque heure et on a trois JT différents le matin, le midi et le soir. Et puis on a une multidif au quart de chaque heure. On a un invité et à moins le quart, on a les autres contenus. C'est ce qu'on appelle la promesse à l'heure. Et puis on rajoute à ça, puisqu'on est quand même sur des 50 ans et plus qui nous regardent. Pour les moins de 50 ans actifs, on a une matinale, on fait concurrence à Dimitri Pavlenko tous les matins de 7h à 9h.
Vous dites un journal toutes les demi-heures, c'est le même journal, il est rediffusé, il est chaque fois mis à jour.
Bah, c'est le journal du matin qui est diffusé jusqu'à midi et demi, et à partir de 18h, c'est encore un autre journal.
D'accord,
et à 12h30, il y a trois journaux
différents qui sont multidiffusés, évidemment, puisque c'est une télévision de complément.
Bien sûr.
Ça c'est la grille. Le week-end, il y a quelque chose de spécial?
Oui, alors on a d'autres émissions le week-end. On est très versé sur la culture et le patrimoine. Et à l'initiative d'ailleurs de ma directrice adjointe Lise Marie de l'Écrin, on a lancé les après-midi dansants du dimanche après-midi pour rejoindre les retraités. Il n'y a pas grand-chose à la télévision pour occuper dans les maisons de retraite les personnes âgées le dimanche après-midi. Et donc nous, on a fait ce choix-là et qui est un choix payant. On voit des petites pics d'audience quand on fait nos analyses.
Alors je rebondis sur ce mot, un choix payant. Est-ce que vous produisez vos contenus? Ou est-ce que vous les achetez, ou est-ce que c'est un mélange des deux?
Alors, surtout pas. On fait parler la Vendée, uniquement la Vendée. Hein. Donc, on a, allez, on va dire 10% de nos contenus qui viennent de l'extérieur, mais 90%, et j'insiste là-dessus, c'est très important, c'est pas ce que font toutes les télévisions locales.
Bien sûr, c'est même plutôt l'inverse, en général, le modèle.
Mon travail, c'est de faire parler la Vendée, c'est de faire parler le territoire, le trottoir d'en face. Donc, je produis 90% des émissions que nous diffusons.
La facilité, ça aurait été, par exemple, pour les après-midi dansants, de récupérer des émissions de Pascal Sevran. Là, vous faites comment? Vous produisez comment?
Non, en l'occurrence, pour les après-midi dansants, ça fait partie des 10% qu'on récupère d'ailleurs.
Ah, je me disais, parce que c'est les après-midi dansants. S'il fallait mettre en place des studios, faire venir des danseurs, les habiller, mettre des caméras,
c'est ça, ce serait compliqué. Mais par contre, on a des studios qui nous permettent de produire l'ensemble des autres contenus de la chaîne.
On va écouter, on va être au cœur de l'actu vendéenne. On va écouter un extrait du JT. C'était le JT de 18h diffusé hier soir.
Bonsoir à toutes et tous, installez-vous, c'est le retour de l'actualité sur TV Vendée. Et au sommaire de l'édition du 17 janvier, bienvenue à Terval. C'est le nom de la 17e commune nouvelle, née officiellement au 1er janvier. Au total, 2222 Tervalois et Tervaloises peuplent la commune, fusion de trois villes du pays de la Châtaigneraie. La FSU dit non au renforcement des savoirs fondamentaux. L'idée est renforcer le français, les mathématiques ou encore le sport au cycle 3. Mais le syndicat vendéen estime que les moyens devraient être investis différemment. Éclairage dans ce journal. Enfin, le musée itinérant sur l'art contemporain poursuit sa tournée en terre vendéenne. Après un passage sur la côte, le MUMO, aménagé dans un camion, s'est installé à Challans en fin de semaine dernière. Un lieu insolite à découvrir dans quelques instants.
Voilà, et quand on dit Challans, on n'a pas besoin de dire Challans en Vendée. On sait que c'est en Vendée. Comment s'appelle-t-il? On va donner son nom de ce journaliste.
Alexandre Debray, qui travaille sous la responsabilité de notre rédactrice en chef Caroline Tronche.
Combien d'employés, vous l'avez dit, 26. Ce sont des CDI?
Oui.
Est-ce que les journalistes ont la carte de presse?
Enfin, il y a un ou deux CDD, mais bon, c'est un taux de renouvellement, bien sûr.
Est-ce que les journalistes ont la carte de presse? Est-ce que vous répondez aux mêmes lois, aux mêmes critères? Pourquoi bien sûr? Il y a plein de télé-locales où il y a un journal qui est fait par quelqu'un qui est là et qui font les choses un peu de briquet de broc. Je rappelle que c'est pas une émission énormissime, 26 personnes à temps plein.
Oui.
C'est très très peu si on compare à une émission de la télévision quotidienne. Je disais tout à l'heure, quand Nulle part ailleurs descendait à Cannes, on descendait en équipe réduite et on était 150.
Sauf que 26 salariés, c'est en termes d'effectifs, c'est la plus grosse de France. C'est ce qui vous donne une idée des 45 autres. Hein. Vous avez des gens qui sont extrêmement zélés et extrêmement motivés. Après, nous, on est vraiment on est une société de droit privé. Hein. Donc, convention collective des journalistes, de la télédiffusion, etc.
Combien d'heures par semaine ils font vos présentateurs, vos journalistes?
Alors,
on les revoit souvent, j'imagine.
Oui. Alors, le CSA nous impose de faire une heure de programme frais par jour, ce qui est un peu fou. On doit être à 3-4, nous, à Télévendée.
Pourquoi c'est fou?
Bah parce que je trouve que c'est pas assez, mais j'en veux toujours plus.
Bah, si vous imposez...
Mais il y a des télévisions qui ont du mal à le faire. Hein.
Oui, si vous l'imposez, ça vous empêche pas de faire 2 ou 3.
Oui, bien sûr. Et en l'occurrence, c'est plutôt 4, voire un peu plus, parce qu'on fait de plus en plus de retransmissions sportives.
La réalisation, c'est automatique. Vous avez des techniciens. Je précise, si vous voulez nous voir, et si vous voulez voir le visage d'Hervé Leroc, vous connectez sur europe1.fr. Il y a des caméras qui sont ici. Il n'y a pas de caméraman. Ce sont des caméras automatiques. Oui. Et chez vous, comment ça se passe?
Alors, chez nous, on a des réalisateurs. On a rationalisé les choses. Par exemple, pour la matinale, je n'ai qu'un technicien réalisateur et une journaliste qui travaille et qui arrive très très tôt. Donc, par contre, on peut avoir jusqu'à 4 ou 5. Enfin, je veux dire, on a une régie de télévision ordinaire.
Voilà.
Hein.
Le réalisateur commute entre plusieurs caméras, mais les caméras sont automatiques.
Voilà.
Il
n'y
a pas de caméraman à l'ancienne avec ce qu'on appelait la mobilette. vous êtes également. J'ai dit, vous êtes directeur général de Télé Vendée, mais pas seulement Hervé Leroc, car vous animez également une émission. L'émission s'appelle Sans détour. On écoute un extrait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Cette semaine, nous sommes à la chaise de Vicomte avec Raymond Doison. Raymond, c'est un peu le grand frère de pas mal de chefs d'entreprise en Vendée. C'est cet ancien directeur général délégué de Fleur Chinchon qui est arrivé dans l'entreprise à la fin des années 70. Il a créé tout un tas de choses en Vendée.
Là, vous êtes dans une voiture.
Oui.
Hein,
oui.
Racontez le concept. C'est un peu comme la route. Alors, le programme de télé italienne qui avait été repris par Canal+.
Vous vous souvenez de le Bollock et Solo qui étaient dans leur voiture?
C'est l'émission dont je parlais.
C'est ça?
C'était, hein, ça, ouais, s'appelait, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était on faisait Rome Milan en Italie. Voilà le format. C'était inventé par des Italiens.
Bah, nous, on a des petites GoPro. On a là encore une personne parce qu'on rationalise tout. J'ai un réalisateur avec moi. Il met une mixette dans le coffre et j'emmène les gens se promener dans ma voiture pour qu'ils n'est pas la pression du plateau, hein, parce que c'est pas forcément facile d'être sur un plateau. Et puis je les emmène dans un lieu qui va les surprendre et qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans le sens. Et on essaie d'avoir un portrait exhaustif à l'instant T d'une figure locale, mais des petites gens comme des grands capitaines d'industrie. Hein. Là, on a Raymond Doison qui est ancien DG de Fleur et Michon, mais ça peut être, ça peut être le petit chauffeur de bus. Hein, j'aime ça aussi.
Et dans les vedettes vendéennes, est-ce qu'il y a des sommités vendéennes, à part évidemment, on connaît tous Philippe de Villiers, qui d'autre?
Alors, j'en ai pas. Enfin, on a des grands capitaines d'industrie, on a des grands patrons. Là, vous me prenez un peu de cours. Là, je saurais pas vous le dire.
Qui avez-vous pu faire venir dans votre voiture? C'est ça qui m'intéresse.
Moi, j'ai fait venir. Je vais avoir du mal à vous dire ça parce que cette émission, elle a 7 ans et j'ai dû faire venir 300 personnes en tout dedans. Donc, je vais avoir du mal. Mais je pense que tous les grands capitaines d'industrie et toutes les vedettes vendéennes sont venues.
On a réussi à faire venir Hervé Leroc. Vous restez avec nous, vous êtes le patron, le directeur général exactement de TV Vendée. On ne vous a pas encore demandé qui était le président, comment la chaîne a été lancée et quand. Culture Média continue sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle de cette chaîne locale TV Vendée, 271 300 téléspectateurs. Le sondage est très précis sur une population de 650 000 Vendéens. Ça fait 42% de la population du département de la Vendée qui regarde. Les audiences ont grimpé, on va en parler. On est avec Hervé Leroc, vous êtes le directeur général de TV Vendée. Si vous êtes le directeur général, ça veut dire que vous n'en êtes pas le président, que la chaîne ne vous appartient pas.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas l'actionnaire. À qui appartient la chaîne?
La chaîne est une société d'économie mixte présidée par Jean-Claude Forconi, qui était ancien directeur général d'un grand groupe, Établi Air, qui est un groupe d'enseignement. Au départ, c'est un lycée, et puis après, c'est de l'enseignement supérieur et tout un tas de formations. Et l'actionnaire majoritaire, c'est le conseil départemental de la Vendée.
Donc, c'est presque une chaîne publique, ou enfin, c'est entre les deux?
Alors, c'est entre les deux. Donc, il y a une grosse subvention du département qui nous permet de vivre et qui a été renouvelée. Alain Leboeuf, le président du département, a renouvelé sa confiance, et je l'en remercie publiquement parce que c'est des grosses sommes. Et puis le reste, c'est un chiffre d'affaires privé que moi et mes équipes on réalise.
Alors allez-y justement, sur les sommes, quel est le modèle économique de la chaîne? Vous l'avez dit, il y a une part publique, il y a une part privée. Est-ce que vous êtes déficitaire? Est-ce que les comptes sont équilibrés? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Il y a beaucoup de patrons de chaîne qui vous écoutent et qui veulent connaître le modèle.
Bah, le modèle économique, à partir du moment où il est subventionné et qu'on me demande de faire un chiffre d'affaires privé, la moindre des choses, compte tenu du montant de la subvention, c'est que je sois à l'équilibre. Mm-hmm. Et grâce au travail de nos équipes depuis quelques années, on dégage du chiffre d'affaires, oui, ça y est.
Parce qu'il y a de la publicité.
Parce qu'il y a de la publicité. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité sur des brand content, sur de l'encadrement d'émissions, la météo avec, sur des retransmissions, des captations, maintenant des assemblées générales. On sent qu'on a besoin de rationaliser d'ailleurs un peu tout ça, parce qu'on a des sources de développement qui sont importantes.
À la louche, la subvention publique est de combien ? Est-ce que vous ramenez en plus et de combien ?
C'est pas un secret, c'est public, hein. On est sur à peu près 1 500 000 euros de la part du département, avec un chiffre d'affaires en 2022 qui était de l'ordre de 650 000 euros.
Pour les publicités, ce sont des acteurs locaux, surtout quand on regarde l'antenne, c'est vraiment de la pub locale. On peut acheter un spot de 30 secondes à partir de quelle somme ?
Ah, dites donc, on est précis, dites donc.
Bah évidemment, c'est très intéressant. D'abord, c'est une émission média, et partir de 1 000 euros, et puis aussi, il y a des gens en Vendée. Il y a quelqu'un qui a une pizzeria, et qui a un commerce, qui se lance dans quelque chose. À partir de 1 000 euros, on peut avoir un spot de 30 secondes.
Parce qu'on se dit que la pub, c'est cher à partir du moment où c'est la télé. C'est pas vrai. À partir de 1 000 euros, on peut avoir une semaine de spot sur TV Vendée.
Et là, le gros avantage, c'est que vous êtes sûr d'être totalement ciblé sur la population.
Ah bah bien sûr.
C'est le principe de médias de niche.
C'est l'ultra proximité.
C'est pour ça qu'il y a autant de médias de niche. Pourquoi les magazines, par exemple, sur les robes de mariée vivent si bien, alors qu'on se marie rarement ? C'est parce qu'il y a des pubs de robes de mariée, mais comme toutes les futures mariées achètent le magazine, on est au cœur de cible. Et donc, ça devient très, très rentable. Est-ce que vous êtes soumis à des règles en termes de publicité par l'ARCOM et par d'autres organismes ? Est-ce que vous devez répondre aux mêmes règles que TF1 ou M6, par exemple ?
Exactement. Voilà.
Alors à savoir.
Alors ça, c'est quelque chose qui pour moi est plus compliqué. Je sais qu'on doit pas dépasser de mémoire, hein, les 12 minutes de pub par heure. Ouais. C'est quelque chose comme ça.
C'est un problème pour vous ?
Pas du tout.
Non, c'est pour savoir si vous aviez trop de pubs. Parce que TF1 ou M6, non. Ils aimeraient bien pouvoir en passer plus.
On ne remplit pas tous nos écrans pubs, forcément.
C'était le sens de ma question. Qui sont vos concurrents ? C'est France 3 Vendée ?
D'abord, c'est France 3 Pays de la Loire aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a peut-être 10 ans, c'était peut-être mes concurrents. Aujourd'hui, j'ai 300 chaînes en face de moi. Voilà, je vais le dire comme ça. Et je le pense vraiment, c'est 300 chaînes de télévision. J'ai toutes les chaînes de télévision de la TNT, des box, etc.
Oui, mais si vous êtes distribué sur la TNT, il y a combien de chaînes distribuées sur la TNT dans votre région ? À Paris, il n'y en a que 30. Vous n'avez pas 300 chaînes sur la TNT ?
Non. Nous, on est sur la chaîne 34. On doit avoir 34-35 chaînes en Vendée.
Il y a un groupe média qui s'est intéressé de très très près aux chaînes locales. C'est BFM qui a une stratégie régionale en s'inspirant d'un modèle américain. Il y a BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, Nice Côte d'Azur, Lille, Lyon, Grand Littoral, Alsace, BFM d'ici, c'est dans le sud, évidemment la première, BFM Paris-Île-de-France. Est-ce qu'ils sont présents sur votre secteur ? Et si oui, comment ?
Non, ils ne sont pas présents sur mon secteur. Je savais que vous alliez me parler de BFM à un moment, mais je crois qu'ils sont aujourd'hui bloqués par l'ARCOM. Ils ne peuvent pas avoir plus de 19 millions de téléspectateurs, je crois. Donc là, je crois qu'ils sont bloqués en termes de nombre de chaînes. Ils ne sont pas présents.
D'où ce petit sourire sur votre visage.
Ils auraient pu avoir envie.
Parce que vous êtes content de ne pas les voir arriver sur votre territoire.
Non, alors pas moi. Sur mon territoire, en fait, il faudrait qu'ils rachètent TV Vendée, puisque moi, je fais parler le territoire, je fais parler que la Vendée. Alors on peut, effectivement, depuis Nantes, il y a Télé Nantes qui émet aussi sur la Vendée, mais ce n'est pas le même public. Le public de Télé Nantes s'intéresse à Nantes, le public de TV Vendée s'intéresse à TV Vendée.
Mais vous êtes également, Hervé Le Roc, président d'une association de TV locale. Expliquez-nous.
Alors, je ne suis pas président de l'association, je fais partie du conseil d'administration de Local TV. C'est Fabrice Lesser et Aurélie Rousseau qui sont co-présidents, respectivement le patron de TV3 et de TVR, la directrice de TVR. Ben, ça regroupe toutes les chaînes de télévision locale de France qu'ils souhaitent. Il y en a 45 aujourd'hui qui sont adhérentes. Et l'objectif, ben, c'est de faciliter les relations à la fois avec les pouvoirs publics sur le développement de nos médias et puis de sécuriser un peu les choses parce que c'est un modèle économique qui même extrêmement fragile. Moi, si demain le conseil départemental dit j'ai des contraintes telles qu'il faut que je baisse la subvention, qu'est-ce que je fais moi ? Il faut que je trouve des ressorts et que je sois aidé et Local TV nous aide à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs publics.
Est-ce que c'est unanime au sein du conseil ? Est-ce qu'il y a un changement de majorité en Vendée ? Vous pourriez perdre votre subvention ou est-ce qu'au contraire, tous les acteurs, c'est à peu près acquis qu'il y a un service public. Je vais donner un exemple. La France a été gouvernée par la droite puis par la gauche, mais ils n'ont pas remis en cause le statut du service public de la télévision.
Je vais vous dire, il y a un modèle économique en Vendée qui est basé sur le sens du service. Et quand tout le monde est au service et pas aux ordres, ça fonctionne plutôt bien. C'est le cas avec Alain Leboeuf, le président du département, qui a clairement fixé les objectifs de sa télévision locale. Et aujourd'hui, moi je suis au service.
J'ai compris, vous n'avez pas répondu à ma question et j'ai vu que vous avez évité la question. Il est de quel bord, Alain Leboeuf ?
Alors, il est de mémoire, je ne pense pas. Il est de droite, mais
une majorité,
je ne suis pas sûr qu'il soit encarté.
Est-ce que la gauche vendéenne vote les subventions avec la droite vendéenne ? C'était ça ma question.
Ah, très bien. Il faudrait encore qu'il y ait une gauche en Vendée. Très présente, en fait. Mais dans les pouvoirs publics, aujourd'hui, au sein des élus, il y a très peu d'élus de gauche sur l'ensemble du territoire.
Vous disiez, nos concurrents, c'est 300 chaînes. Comment on peut regarder TV Vendée si on n'habite pas en Vendée et qu'on n'a pas la TNT ? Nous, on pouvait l'avoir du bureau. Racontez comment on peut faire.
Alors, il faut aller sur Internet, tvvendée.fr. On a des chaînes YouTube. Après, on a tout le replay adéquat. Sur les box, vous allez sur les chaînes 30 des box. Et puis après, vous pouvez dérouler à partir de 30. Vous avez le panorama des chaînes de télévision locales. Après, on est dans les 200, 300. Vous savez, on est très très loin, toutes les chaînes des télévisions locales. Mais enfin, en tout cas, sur les box, on peut nous trouver aussi également facilement.
Merci beaucoup, Hervé Leroc, d'être venu depuis la Vendée. On l'a dit que vous veniez de Vendée. Oui, on l'a dit. Jusqu'à Culture Média. Je rappelle, vous êtes le directeur général de TV Vendée. Vous reprenez quand l'antenne, vous-même ?
Vendredi matin, à 15h, avec mon émission Sans Détour, je reçois Paul Delaunois, qui est un comédien.
Dans un instant, tout à fait autre chose, un documentaire qui s'intéresse à la fin de carrière de la vie des sportifs, ce qu'ils appellent la petite mort, ça veut tout dire. Laura Flessel, Florent Manaudou, Gilles Simon, Djibril Cissé se sont entre autres confiés au réalisateur Olivier Dacour. Il sera avec nous. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons l'ancien footballeur, désormais documentariste Olivier Dacour, pour son doc justement, Le Crépuscule des Champions. Mais d'abord, c'est l'heure de notre champion à nous, les télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les productions médiatiques et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur l'une des émissions phares de la chaîne M6, Patron Incognito.
Oui, et si j'ai choisi ce programme, Philippe, c'est parce que l'épisode qui a été diffusé avant-hier ne s'est pas déroulé exactement comme d'habitude et parce que j'y ai vu un symbole d'une saisissante ironie. Je vous raconte. Alors, Patron Incognito, c'est une émission dont le principe est simple. Hein. Le boss d'une entreprise se fait déguiser et grimer avant d'aller travailler pendant toute une journée aux côtés de l'un de ses employés. Car le postulat est le suivant. Anonymisé par le travestissement, le patron va enfin réussir à toucher du doigt la réalité et les difficultés du travail de ses salariés qui, jusqu'ici, lui échappaient totalement.
Comme on ne fait plus trop de terrain, on a l'impression, vu d'en haut, que tout se passe bien, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on aille dénicher, qu'on arrive à travailler la perfection.
Dans l'émission d'avant-hier, le taulier était un certain Frédéric Murat, patron de coursier.fr, une boîte spécialisée dans la livraison. Et donc, avant de commencer, Monsieur Murat est allé se faire maquiller, déguiser en coursier.
Pour changer l'identité du patron, on applique sur sa barbe poivre et sel une teinture foncée, assortie à une épaisse et fausse moustache en vrais cheveux pour camoufler la sienne trop clairsemée et pour modifier le bas du visage.
Paré de sa nouvelle barbe noire et de sa moustache en faux cheveux, Frédéric en était convaincu, il était devenu parfaitement méconnaissable.
Je pense pas que mes proches vont me reconnaître.
Bien, Monsieur Frédéric est donc devenu Stéphane, Steph, un coursier débutant que la production de l'émission prétendant effectuer un reportage en collaboration avec Pôle emploi pour justifier la présence de sa caméra a collé dans les pattes d'un livreur chevronné qui circule à vélo. Le hic, c'est qu'après à peine quelques tout petits tours de roue et de caméra, l'employé a tout fait dérailler. Tu t'appelles vraiment Steph, a-t-il glissé à Frédéric avant de fendre l'armure pour de bon.
Je t'appelle Fred.
Fred comment ?
Fred Murat.
Fred Murat ?
Ouais.
C'est qui Fred Murat ?
C'est toi.
Eh oui. En deux temps, trois mouvements, il a détronché son patron ou grand dame de la production.
Un patron qui se fait démasquer en quelques minutes dans l'histoire de l'émission Patron Incognito, c'est du jamais vu.
Alors comment a-t-il réussi pareille prouesse ? Eh bien figurez-vous Philippe que le patron incognito était en short. Et devinez un peu ce qu'il arborait sur sa cuisse droite.
Mais t'as des tatouages sur la cuisse ?
Hold up. Nous découvrons que Frédéric Murat a l'historique de son entreprise gravé à même la peau.
Des tatouages, mais pas n'importe lesquels, non. Car notre homme s'est fait tatouer, c'est pas banal, les trois logos de son entreprise, coursier.fr, sur l'épiderme. Notre homme a donc, au sens propre du terme, son entreprise dans la peau.
Alors j'ai été saisi, Philippe, par cet incroyable symbole, par ce qu'il raconte en creux et par le retournement total du principe même de l'émission qu'il a ainsi permis de mettre à jour. Car que s'est-il passé en vérité ? Eh bien, nous avons assisté à une séquence façon arroseur arrosé. Celui qui est venu masqué et travesti pour essayer de débusquer ses propres salariés a été découvert. Le masque est tombé. Et pourquoi ? Eh bien, à cause d'un tatouage, d'un symbole de l'aliénation totale de cet homme à l'entreprise qu'il a créée. Eh oui, en un éclair, Frédéric a donc été renvoyé à sa réalité. Il n'est qu'un patron et rien d'autre. Il lui est donc, contrairement à ce que prétend l'émission, totalement impossible de se mettre au niveau de ceux qui l'emploient, car personne n'a à ce point l'entreprise dans la peau. Ou la démonstration, Philippe, que la lutte des classes ne se maquille pas. Elle est tatouée, indélébile, même derrière une fausse moustache, en faux cheveux.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Olivier Dacourt.
Bonjour.
Vous n'avez pas les tatouages de tous les clubs par lesquels vous êtes passé ?
Non, pas du tout.
Ancien footballeur professionnel, 21 sélections en équipe de France, vous avez joué notamment à Lens, à Strasbourg, en Angleterre, à Everton, à Fulham, en Italie avec l'Inter de Milan et l'AS Roma, excusez du peu. Désormais, vous êtes consultant, documentariste, déjà 3 docs sur Canal+. Et votre actu, c'est un documentaire inédit, Le Crépuscule des Champions. Ce sera dimanche le 22 sur Canal+, à 21h. Vous attaquez à un moment très difficile de la carrière d'un sportif de très haut niveau, peut-être la plus difficile, la fin de carrière. Vous faites témoigner 6 sportifs. Qui sont-ils ? Vous avez en tête ?
Florent Manaudou, Mathieu Bastaro, Laura Flessel, Sandra Lawara, Gilles Simon. Exact. Et Djibril Cissé.
Et Djibril Cissé, footballeurs sont tous des cas différents. Par exemple, Laura Flessel ou Gilles Simon ont choisi la date de leurs adieux. Sandra Lawara a eu un accident qui l'a paralysé des jambes. Donc là, elle n'a pas choisi malheureusement. Florent Manaudou et Mathieu Bastaro, lui, a été blessé, mais ont tout arrêté avant de revenir. Vous-même, vous avez arrêté à quel âge et dans quelles conditions ?
J'ai arrêté à 35 ans et j'avais eu les croisés. J'étais revenu.
Les ligaments croisés.
Les ligaments croisés, ouais. J'étais revenu et j'ai arrêté quelques mois après.
Vous êtes rendu compte que vous ne reviendrez plus au niveau qui était le vôtre ?
Je ne voulais pas arrêter sur une blessure. Et je voulais sentir encore le goût des terrains et après j'avais plus la motivation, donc on a arrêté.
Vous en parlez encore avec une petite douleur dans la voix, ça se sent, même au son, on entend le télescopage entre les exploits dans les stades et le retour à la télé-réalité, c'est au début du sujet, ça donne très très bien la tonalité, on écoute.
C'est magnifique ce que fait Olivier Lacour, qui donne l'avantage au Racing Club de Lens, un geste exceptionnel.
Laurent Flessel pour la victoire finale.
Ouais ouais
ouais ouais ouais ouais ouais.
Fantastique. Incroyable.
Oh, quel numéro de Bastard Roquette.
Oui, c'est marqué par Djibril Cissé. C'est terminé. La victoire pour le Liverpool Football Club.
C'est compliqué de te dire que tout ça, ça va s'arrêter. Le jour où ça s'arrête, c'est un grand vide en fait.
Et vous-même, vous avez ressenti ce grand vide ?
On est obligé de le ressentir. Après 20 ans de... Notre vie était organisée, tout était écrit.
Mais on a beau se dire tous les jours que ça s'arrête, puisque vous le savez, il n'y a aucun footballeur qui a 40 ans, 50 ans...
Il y en a.
Oui, mais enfin, pas à ce niveau-là. Enfin, il y en a très peu de 50 ans. Mais vous n'êtes pas dit, on n'arrive même pas à se préparer à ça.
On se prépare, on a beau se préparer, c'est un petit peu le parallèle avec les retraités. C'est que, on avait une vie qui était bien structurée, et là, du jour au lendemain, c'est trouver une occupation, c'est donner un sens à sa vie. Et ça, c'est pas facile.
Je vais pas vous demander comment vous avez convaincu tous ces champions de parler pour vous. D'abord, c'est votre marque de fabrique. Et puis ensuite, on sait que vous avez des relations personnelles fortes avec les gens. Je vais prendre les choses sous un autre angle de leur point de vue. Quel intérêt ont-ils eu à passer dans votre documentaire comme pour exorciser le mal, si c'était possible ?
J'ai vécu, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je sais ce qu'ils sont en train de vivre. Et il y a un côté intimiste. C'est que... Je ne suis pas là à leur raconter des histoires, c'est quelque chose... Souvent, nous, les sportifs, c'est une petite... comment je pourrais dire ça ?
À un moment donné, dans le doc, on dit une petite mort.
La petite mort, mais le crépuscule, c'est la fin de la journée. Et c'est la fin de quelque chose, et en même temps, on est à l'aube de quelque chose d'autre.
Parfois, il est possible que le crépuscule ne débouche pas sur une nuit puis une aube, mais simplement sur une nuit. Sandra Laura, elle était championne de ski de bosse, médaille de bronze au JO de Turin. Et puis en 2007, à l'entraînement, elle se fracture deux vertèbres. Conséquence, elle perd l'usage de ses jambes. Depuis, elle vit sur un fauteuil roulant. Elle vous raconte la suite. Comment se reconstruire? Comment se voir un avenir?
C'est compliqué déjà à la base en tant qu'athlète, quand on arrête sa carrière, parce que notre métabolisme et notre corps changent. Mais quand on est une femme à 27 ans et qu'il arrive aussi brutalement, alors qu'on n'avait pas du tout ça en tête, et que moi je faisais très attention à mon corps, bah c'est la double dose, quoi. C'est plus difficile après de se construire en tant que femme, hein. Surtout quand on a des projets de vie, des projets même pros. Donc, ça a été douloureux, difficile, remise en question, envie de partir.
Quand tu dis envie de partir,
quitter ça.
Et les larmes aux yeux, elle a vraiment pensé au suicide. Vous, c'est jamais allé jusque-là?
Non, pas du tout, mais j'ai pas vécu ce qu'elle avait vécu. Hein.
Bien sûr, parce qu'elle, en plus de l'arrêt de la compétition sportive, il y a aussi ses jambes qui ne répondent plus.
C'était une femme, là c'est plus la sportive simplement, c'est sa vie de femme également. Et je pourrais jamais comprendre ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle vit.
Évidemment, et ce passage très très émouvant. Il y a des cas beaucoup plus joyeux. Par exemple, Florent Manaudou, nageur, il prend sa retraite en 2016, après les Jeux Olympiques de Rio. Il n'en pouvait plus, il en avait marre de la natation, on peut comprendre, l'entraînement c'est quand même très très difficile. Il essaye de tenter une nouvelle carrière dans le handball, on s'en souvient, sans succès. Enfin, il arrive à un certain niveau, mais il ne sera jamais au niveau des gens avec qui jouaient des pros et des leaders. Or, il avait l'habitude d'être un leader, donc il prend une décision, redevenir champion olympique à Paris en 2024. Et il a découvert que ce n'était pas facile de passer d'une discipline à l'autre, et pas seulement dans le sport. On écoute Florent Manaudou.
En France, c'est très compliqué. Dès qu'on sort de sa case, on n'est forcément pas talentueux, mais je suis bon en sport, peut-être que je suis bon ailleurs. Les gens ne savent pas pourquoi je ne serais pas bon chanteur ou pas bon acteur ou pas bon consultant. Enfin, c'est pas parce que je suis bon quelque part que je suis nul de partout ailleurs, quoi. J'ai aussi d'autres qualités, je suppose. Je suis forcément pas bon dans plein de choses, mais je suis aussi bon dans d'autres choses.
Vous savez ce qui m'a frappé dans cette interview? Il donne comme exemple, je suis peut-être bon chanteur, bon comédien, bon consultant. Je me dis, mais pourquoi ces métiers? Pourquoi il ne pourrait pas se reconvertir en boulanger, en garagiste, en ingénieur? Pourquoi choisir des métiers publics? Est-ce qu'en plus du sport, l'adrénaline du sport, il y a aussi le côté public qui manque? Le côté d'être reconnu, le côté qu'on parle de vous dans la rue, le côté qu'on vous voit le soir. Moi, je regardais jour de foot et je regardais les buts d'Olivier Dacourt à 23h quand il y avait le résumé des matchs. Est-ce que ça aussi, ça manque?
Mais pas simplement que pour les sportifs, même pour vous probablement. Quand on a eu une certaine notoriété... On est content que les gens nous reconnaissent dans la rue. Et quand on a vécu de telles émotions, Florent est peut-être l'un des plus grands nageurs de français, donc forcément, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Et ça, peut-être que la peur qu'on le reconnaisse plus, pour lui, il a une petite appréhension.
Vous, on vous reconnaît, parce que vous êtes toujours consultant.
Ouais, mais moi j'ai souvent un bonnet et j'essaie de me cacher.
Voilà, votre look c'est avec le bonnet. Dans la rue, vous vous cachez. Mais est-ce que c'est un traumatisme pour vous qu'on ne vous reconnaisse pas?
Ah non, pas du tout. Mais après, on est tous très différents.
Bien sûr.
Quand on est milieu défensif, on est un porteur d'eau. Donc on joue pour les autres.
Ouais.
On a l'habitude d'être dans l'ombre. Mmh. Et moi, ça ne me dérange pas.
Moi, je suis très content qu'on ne me reconnaisse pas. Pour répondre à votre question, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus de télé. J'étais très content de faire de la télévision et je suis très content de faire de la radio où les gens s'intéressent à ce qu'on raconte et pas à l'image qu'on véhicule. Il y a aussi quelque chose...
Mais en parlant d'image,
allez-y.
Mais souvent, on est toujours amené à l'image du sportif, l'homme qu'on a été. On est toujours rappelé par ça. Ah, Olivier Dacourt, ah, le footballeur. Mm. Mais ok, ça, c'était une vie précédente. Il y a l'homme qui est peut-être une autre personne, mais on nous rappelle, on nous renvoie toujours à ce qu'on a été et pas ce qu'on est.
C'est agréable ou c'est désagréable pour vous? J'imagine qu'il y a autant de réponses que ce qu'il y a de sportif, mais pour vous?
Mais quand on fait autre chose, moi j'ai la chance et en plus je suis accompagné parce que celui qui co-réalise avec moi, Marc Sauvorel, est un petit génie. Mmh. Donc moi j'ai cette chance, j'ai pu faire autre chose. Mais il y en a beaucoup, il y a le questionnement et c'est plus difficile de,
de se reconstruire.
Voilà. Vous savez, ce qui change avec les médias, c'est que le gros avantage dans les médias, c'est qu'on peut continuer à travailler après 50 ans. J'en sais quelque chose. Et c'est Pierre Belmar, un ancien d'Europe 1, qui m'avait raconté ça. Il travaillait bien, bien après l'âge de la retraite. Je l'avais interviewé un jour et il m'avait dit « Moi, j'ai une chance, c'est que ma voix n'a pas mué. » Parce que quand on est très vieux, la voix mue, comme les petites mémés dans les dessins animés. Et lui, ce n'était pas le cas, et donc il pouvait encore travailler. C'est un sujet très sensible. Vous avez essuyé les refus de beaucoup de sportifs, où tous ont dit oui à votre invitation.
Oui, quelques-uns. Et quelques-uns m'ont... quelques-uns n'ont pas voulu. Et après, je comprends, et j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir ces six sportifs qui ont répondu présent et qui sont fabuleux.
Et si... Si grand nom, avec des images très fortes. Merci beaucoup Olivier Dacour. Je rappelle ce doc inédit, Le Crépuscule des Champions. Ça passe dimanche. Nous serons le 22 sur Canal+, à 21h. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.
Merci à vous pour
l'invitation. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Notre invité, c'est une voix, la chanteuse, la grande Sophie. On parle de son nouvel album, La Vie Moderne. Et puis dans les indispensables, un livre consacré à Étienne Dao. Lui aussi, c'est une voix, avec Stéphanie Loire. Et Olivier Benkemoun qui va nous parler du film événement de Damien Chazelle, Babylone, qui sort aujourd'hui en salle. Qu'est-ce que ça vaut? Il va nous dire. Et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Qu'est-ce que ça vaut? Je suis sûr d'avance que ça va être formidable. A tout de suite. Culture Média sur Europe 1.